suis Mohamed Ali Amir Moezi, professeur des universités, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, où j'occupe la chaire de exégèse et théologie de l'islam chiite. Le projet de ce livre, c'est de donner pour la première fois une synthèse accessible à un public de non-spécialistes d'un livre extrêmement important pour la religion chiite, puisque on considère que ce livre, le livre de la preuve, dont le titre de mon livre est inspiré, est le livre le plus important sur le plan doctrinal de hadith chiite. Alors le hadith, dans le sens chiite du terme, ce sont les enseignements qui remontent au prophète Mohammed, à sa fille Fatima, à Ali, donc l'époux de Fatima, et les descendants de Ali et de Fatima, les imams. Et comme je m'occupe de la branche principale du chiisme, c'est-à-dire le chiisme duodécimain, donc il s'agit de 12 imams, donc les enseignements remontant surtout à ces 12 imams. Et ce livre dont je m'occupe, c'est le livre qui s'appelle le livre suffisant de Muhammad ibn Ya'qub al-Kulayni, qui vivait au 9e et 10e siècle de notre ère, et qui est un des quatre principaux compilateurs de traditions de hadith chiite. Alors on considère que le livre de Kulayni est le livre le plus important, d'abord parce qu'il fait partie de ce qu'on appelle les quatre authentiques, ce que les chiites considèrent comme les traditions authentiquement attribuées à leurs imams. Et donc, parmi ces quatre livres, le livre de Kulayni est particulièrement important parce que c'est la seule compilation, d'abord c'est la plus ancienne, elle contient 20 000 traditions, donc c'est la plus importante, et puis elle contient une partie doctrinale extrêmement importante, contrairement aux trois autres compilations, aux trois autres authentiques, qui ne concernent que des traditions juridiques. Et dans ce corpus doctrinal, le livre de la preuve est la partie la plus importante, même géographiquement, il occupe le centre de la compilation, et c'est une partie, on pourrait dire, monographique sur la figure du guide, de l'imam, qui est la colonne vertébrale de la religion chiite. Alors, selon les sources traditionnelles de l'islam, l'étincelle première de la naissance du chiisme remonte à la délicate question de la succession du prophète. Donc, après la mort du prophète, selon ces sources, une majorité de ses fidèles ont élu un personnage important parmi les compagnons du prophète, Abu Bakr, qui devient le premier calife de l'islam, le premier successeur du prophète. Mais en face de cette majorité de fidèles, il y avait une minorité qui considérait que le seul successeur légitime de Mohammed était son gendre et son cousin germain, le père de la seule descendance mâle du prophète, Ali, donc époux de Fatima, la fille du prophète. Et donc, ces Alides, les partisans de Ali, constituent, disons, le premier noyau de ce que deviendra plus tard le chiisme. Alors, Ali deviendra finalement calife en quatrième position, mais disons, cette question de la succession est une, comme je l'ai dit, une première étincelle, mais à partir de là, il y a toute une doctrine, toute une religion qui sera élaborée autour de la figure justement de Ali comme le premier imam. C'est un terme absolument central dans le chiisme. Imam, c'est un terme arabe qui signifie guide, chef, leader. Et donc, à partir de là, peu à peu, le chiisme devient la religion de l'imam, de telle sorte que la figure de l'imam, du guide divin, est le véritable axe autour duquel tourne le chiisme, c'est-à-dire que tous les chapitres religieux, du droit à l'exégèse coranique, de la philosophie à l'eschatologie, tous les chapitres importants de la religion chiite sont déterminés par rapport à ce que j'appellerais l'imamologie, c'est-à-dire la doctrine de l'imam. Selon ces sources fondamentales, la spécificité du chiisme réside dans une double vision du monde. D'abord une vision duelle, c'est-à-dire que toute réalité, de la plus haute à la plus banale, comporte deux niveaux. Un niveau apparent, exotérique, et un niveau caché, ésotérique. La réalité la plus haute, Dieu, selon la théologie chiite, il y a une face cachée de Dieu qui reste à jamais inconnaissable, c'est l'essence de Dieu. Et puis, il y a une face révélée de Dieu. Dieu manifeste dans l'humanité à travers la figure des différents guides, imams de l'humanité. De la même manière, la parole de Dieu, c'est-à-dire telle qu'elle se manifeste dans les Écritures saintes, a une dimension exotérique et une dimension ésotérique. On retrouve le couple de saint Paul, la lettre et l'esprit. Donc là aussi, la lettre constitue le niveau exotérique des Écritures. Et puis, il y a un niveau caché dont l'interprète, on va en reparler, est l'imam. Alors, à côté de cette vision duelle, il y a également la vision dualiste, c'est-à-dire, selon le schisme, l'histoire du monde et l'histoire d'une guerre entre le bien et le mal, entre la connaissance et l'ignorance. Et donc, l'histoire du monde est l'histoire d'un conflit entre les forces de la connaissance dirigées par les différents guides spirituels de l'humanité contre les forces de l'ignorance. D'une manière générale, en islam, il y a deux sources scripturaires, aussi bien pour les sunnites que les chiites, le Coran et le Hadith. Mais en même temps, surtout pendant les premiers siècles de l'Égypte, on n'a pas les mêmes définitions des deux sources d'un côté et de l'autre. Le Hadith, pour les sunnites, ce sont les traditions du prophète et quelques-uns parmi ses compagnons. Comme je l'ai dit, pour les chiites, le Hadith, ce sont les traditions du prophète, de sa fille Fatima, de Ali son époux et des descendants de Ali et de Fatima, c'est-à-dire les imams. Et donc, les sunnites et les chiites n'ont pas le même corpus de hadith et c'est valable jusqu'à aujourd'hui. En revanche, pour le Coran, les choses sont plus compliquées, c'est-à-dire que pendant les 3 ou 4 premiers siècles de l'Égypte, beaucoup de musulmans n'ont pas accepté l'authenticité du Coran officiel que nous connaissons sous le nom de la Vulgate de Osman. Il y avait d'âpres combats, d'âpres débats parmi les musulmans. Et parmi ceux qui mettaient en doute l'authenticité du Coran officiel, il y avait surtout les halides, que l'on appellera plus tard les chiites, et donc pour qui la Vulgate de Osman était une version falsifiée de la révélation faite à Mohammed. Pour ces chiites, la seule version authentique du Coran était la recension de Ali, qui était beaucoup plus volumineuse que la Vulgate officielle, et ça va être le cas pendant 3 siècles et demi. Et c'est au début du 4e siècle de l'Égypte que les chiites vont également accepter la version sunnite des choses pour des raisons politiques et vont accepter donc que la Vulgate officielle est une version authentique du Coran. Mais jusque-là, il y avait beaucoup de débats. Dès ces textes fondateurs, le schisme se définit en quelque sorte comme une religion herméneutique, c'est-à-dire une religion de l'interprétation des Écritures. Comme je l'ai déjà dit, selon la vision duelle des choses, donc la parole de Dieu dans ses livres saints a une dimension exotérique, apparente, la lettre, et une dimension cachée, une dimension ésotérique. Et dans ce couple, c'est le rôle de l'imam, du guide justement, de révéler, d'initier ses fidèles à ce sens caché, à ce niveau ésotérique du livre. D'où aussi l'existence d'une expression dans le schisme du couple du Coran silencieux et du Coran parlant. Le Coran silencieux est le Coran écrit, le livre, qui est difficilement intelligible sans l'interprétation de l'imam, qui est appelé de ce fait le Coran parlant. Il est celui qui donne au livre sa parole, c'est-à-dire son intelligibilité. Le schisme est la religion de l'imam, comme le christianisme est la religion du Christ. Je l'ai écrit tel quel dans l'introduction de mon livre. C'est-à-dire que dans le schisme, la figure de l'imam a une double nature, une nature humaine et une nature divine. Alors dans sa dimension humaine, l'imam est le guide spirituel par excellence et en particulier l'interprète de la parole de Dieu, c'est-à-dire celui qui initie ses fidèles au sens caché de la parole de Dieu. Et dans sa nature divine, l'imam manifeste sur terre ce qui peut être révélé en Dieu, et donc il est en quelque sorte la face et la preuve de Dieu. Il est appelé, un de ses titres, c'est la face de Dieu, et il prouve en quelque sorte l'existence et l'efficience de Dieu sur terre. Donc de cette manière, l'imam est dans son rôle humain et le guide par excellence, l'interprète de la face caché de la religion, Et dans sa nature divine, il constitue l'objectif ultime de la foi, c'est-à-dire que le secret ultime de la religion chiite, c'est justement la face cachée de Dieu, le secret de l'homme divin, celui qui prouve Dieu sur terre.